vendredi 11 août. Au menu aujourd'hui, on parle immigration et apprentissage du français. Je vous demande si vous êtes pour ou contre les commerces ayant uniquement des caisses libre-service. Aussi, on parle de la pression de faire de l'activité physique. Et on termine notre saison en beauté avec le chef Danny Saint-Pierre. Hâte de vous entendre et de vous lire.
Vous écoutez Radio Texto.
Bonjour, heureuse de vous accompagner pour les deux prochaines heures. C'est la dernière émission de Radio Texto cet été et je vais prendre un moment maintenant pour vous parler parce qu'en fin d'émission, je le sais, c'est toujours, ça va vite, puis j'ai peur de pas avoir le temps de le faire. Alors, je me lance. Ça fait 7 semaines aujourd'hui que j'ai la chance de vous accompagner tous les jours. Cette émission-là n'aurait pas été possible sans le travail de plusieurs personnes. J'aimerais remercier tous les recherchistes qui se sont succédés au courant de l'été. Ils travaillent tellement fort pour le résultat que vous entendez, mais tellement fort. Sans oublier qu'ils sont ceux qui vous répondent au téléphone tous les jours. Je les nomme Normand Gemme, Isabelle Laure, qui m'ont d'ailleurs offert le plus beau bouquet de fleurs de l'univers juste avant l'émission. Merci à vous deux. Vous êtes ceux qui tenaient le fort tout au long de l'année. Vous avez été là avec moi. Vous m'avez accompagnée. C'était précieux, votre expérience. Je vous remercie tellement. Je nomme aussi à la recherche Éléonore Turcotte, Émilie Tremblay, Sarah-Danielle Gagnon. Merci à vous tous. Ensuite, je vous parle de la mise en onde parce que la personne derrière la console, c'est mon premier auditeur. C'est cette personne-là qui écoute le moindre mot que je prononce, qui m'aide à gérer le temps, qui s'assure que tout est fluide à l'écoute pour vous. Alors, merci à Jean-Christophe Ouellette qui est en ce moment derrière la console. Merci à Mylène Ledoux et un merci spécial aussi à Larry Dufresne. C'est Larry qui a démarré cette émission-là avec moi, qui m'a aidé à conceptualiser Radio Texto. Larry, c'est quelqu'un de très, très cher à mes yeux. C'est comme un grand frère pour moi. Il a été très sécurisant alors qu'on préparait tout ça. Ensuite, merci spécial à ma patronne, c'est Julie-Christine Gagnon. C'est elle qui a eu le guts, comme on dit, de me proposer de remplacer Nathalie Normando cet été. Alors que, ben, je vous le dis maintenant, moi, j'avais jamais animé d'émission en direct avant. C'est ma confession. Julie-Christine, c'est une femme de cœur à l'écoute qui met en confiance. Je l'adore. Aussi, je remercie Pierre Martineau. Lui, c'est le grand patron de la station. Merci pour ta grande confiance. Un autre merci, je sais qu'il y en a beaucoup, mais il faut que je le fasse. Merci à Nathalie Normando. Nathalie, c'est votre animatrice régulière qu'on aime tant. Puis elle m'a encouragée, elle m'a mise en confiance. C'est une grande dame, notre chère Nathalie. Elle reprend son micro dès lundi. Et enfin, évidemment, merci à vous, les auditeurs. Quand on développe une émission, on met vraiment tout notre cœur, mais même si on travaille très, très fort, à la fin, là, c'est vous qui décidez si vous aimez ou pas ce qu'on vous propose. Mais je pense que vous avez aimé, puis vous me l'avez démontré par votre grande participation. Vous nous écoutez de partout. Vous êtes à Québec, vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes en Mauricie, en Outaouais, dans le bas du fleuve, vous êtes partout. Et vous étiez mes yeux, mes oreilles tout au long de l'été. Vous allez me manquer, mais on se retrouve en saison régulière parce que je vais reprendre ma position de chroniqueuse avec Luc Ferrandez à l'émission Sans réserve. Alors voilà, c'est fait pour les remerciements. Je suis émue, mais heureuse d'être là. C'est comme un mélange de sentiments. Triste de vous quitter, mais tellement satisfaite de ce qu'on a accompli ensemble cet été. Alors voilà, aujourd'hui à l'émission, on va parler des caisses libre-service. De plus en plus de commerces songent à intégrer à 100% ces caisses-là, donc plus de caissiers du tout. On le voit aux États-Unis, il y a des endroits qui sont en train de le tester, dont certains Walmart. Alors, je vais vous poser la question, pour ou contre un commerce ayant uniquement des caisses automatiques, est-ce que vous les utilisez ou vous les boudez? On en parle dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, on discute intégration et apprentissage du français. Parce que hier, j'ai vécu une superbe expérience. Je suis arrêtée dans un dépanneur du Vieux-Montréal après l'émission. J'ai rencontré Hamid, qui est caissier. Et il m'a demandé « Everything is good? » Et là, j'ai répondu « Oui ». Et là, il m'a demandé « Comment on dit ça en français? Everything is good. » J'ai répondu « On dit « Tout est bien. » Et là, il m'a demandé de l'écrire sur un papier. Il m'a donné un papier et un crayon. Il m'a dit « Peux-tu l'écrire en français? » Parce qu'il est en apprentissage du français. Hamid, il vient d'Iran. Il est ici depuis 10 mois. Et on a jasé un peu en français. Donc là, il m'a parlé de la météo, de son parcours, un peu de tout. Je vous dis, c'était tellement un beau moment. Puis en sortant de là, je me suis dit « On n'arrête pas de dire que les immigrants, ils font pas d'efforts. Mais c'est quoi la réalité? Parce que moi, c'est pas ce que j'ai constaté. J'aurais pu, moi, de mon côté, décider de poursuivre la conversation en anglais, de pas prendre de temps avec lui parce qu'il avait un accent, c'était plus difficile. Mais non, j'ai décidé de l'aider à pratiquer son français. Puis ce que je me dis, c'est si on souhaite que tout le monde puisse parler notre belle langue, ben, nous qui la maîtrisons, on doit aussi les aider à apprendre. Alors, je vous pose la question, et c'est maintenant, est-ce que vous prenez le temps de converser en français avec des immigrants? Et s'ils ont de la difficulté, est-ce que vous avez une tendance à basculer vers l'anglais? Parce qu'on se dit, des fois, on veut les aider, on veut être gentil, on veut être sympathique, mais est-ce qu'on les aide vraiment quand on fait ça? Donc, appelez-moi. Les numéros de téléphone pour nous joindre à Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850. Par texto, le 98985. J'en parle avec Tania Lompré, enseignante en francisation, chargée de cours pour les futurs enseignants en francisation. C'est la spécialiste. Bonjour, Tania.
Bonjour Marie-Ève. D'abord, félicitations pour votre bel été.
Ah, merci, c'est gentil. J'ai tellement eu le plaisir. Je pense que ça fait 100 fois que je le dis depuis 5 minutes. Mais te dire, Tania, comment ça a été un beau moment pour moi hier, là, quand j'ai rencontré Hamid, ça m'a fait du bien d'échanger avec quelqu'un qui a envie d'apprendre ma langue.
Ben oui, puis ils sont tellement à vouloir l'apprendre, notre langue, tu sais, autant à Montréal qu'à Québec, qu'à Sherbrooke, tu sais, les nouveaux arrivants s'installent partout maintenant. Mais je trouve que la majorité de nos compatriotes ont souvent le réflexe, comme tu disais avant, de passer à l'anglais, alors que les gens cherchent l'occasion de pratiquer. Puis on leur en offre pas souvent, je trouve, dans les milieux réguliers.
Pourquoi ça? Pourquoi ils n'ont pas l'occasion alors qu'on est des centaines de milliers là, à parler le français?
Ben parce que souvent, on pense qu'on va les aider justement en utilisant l'anglais. Puis là, souvent, les gens parlent pas anglais. Hein? Ça, on dirait que les Québécois ont tendance à penser que partout sur Terre, les gens parlent bien anglais ou que les nouveaux arrivants parlent tous anglais. C'est pas le cas. Tu sais, moi, j'avais une ancienne étudiante qui était allée acheter toutes les fournitures scolaires de ses enfants chez Bureau en gros. Mm-hmm. Qui parle pas un mot anglais, qui a un gros accent espagnol, si on sait que c'est pas une anglophone, mais on lui répondait systématiquement en anglais alors qu'elle ne comprenait rien. C'est qu'elle disait, je ne comprends pas pourquoi on parle en anglais alors que je comprends pas l'anglais dans un endroit où je devrais pouvoir pratiquer mon français. Tu sais, fait que souvent, les nouveaux arrivants qui veulent se pratiquer, ben, se butent à des gens qui pensent les aider, mais finalement, pourraient leur offrir une alternative, justement, de pratiquer puis de mettre à l'essai ce qu'ils ont appris dans mes classes, tu sais.
Oui, parce qu'aller en classe, c'est une chose, mais on le dit toujours, pour arriver à le parler couramment, dans le quotidien, on doit le vivre, c'est-à-dire on va chercher un café, on doit parler français, on veut demander une information, on doit demander en français si on veut apprendre. Et nous, notre rôle, c'est de répondre en français, même si ça peut prendre un petit peu plus de temps, l'interaction.
Ben oui, parce que, tu sais, l'interlocuteur du nouvel arrivant, ça peut pas seulement être son enseignant. T'sais, nous, on fait ça toute la journée, mais si les gens automatisent pas ces connaissances-là dans la réalité, au quotidien, dans leurs déplacements, au magasin, ben ils pourront pas mettre en pratique, puis justement, ça deviendra pas naturel pour eux. Fait que pour aider les gens à ce que le français devienne naturel, prenez 2 minutes, ralentissez un peu votre débit, choisissez des mots plus simples. C'est comme ça, vous allez les aider davantage que d'essayer une langue qu'ils ne connaissent peut-être pas.
Mais moi, là, je trouve, Tania, ça, qu'on n'en parle pas assez de notre rôle à nous, qu'on peut jouer dans l'intégration.
Dans le
concret.
C'est un rôle double, hein. L'intégration, ça, c'est pas seulement le rôle de l'apprenant. Du nouvel arrivant, c'est aussi le rôle de toute la société. Tu sais, je veux dire, c'est un double rôle. Donc, nous, on a un rôle. Les gens qui arrivent ont un rôle. Mais si nous, on prend pas notre responsabilité, on peut pas dire que les gens qui viennent d'arriver les prennent pas. Si nous, on est les premiers à pas les aider.
Oui, parce que j'ai souvenir, moi, d'avoir fait une expérience il y a quelques années, alors que je travaillais à Radio-Canada. Là, j'avais accompagné Byron. Byron, c'était un gars qui venait de Vancouver, qui apprenait le français, qui parlait quand même très bien le français, mais avec un accent. On s'était promené dans le centre-ville de Montréal. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque personne qu'on croisait, en fait, c'est lui, il demandait les indications pour aller au marché Jean Talon. Pour ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, là, on peut prendre le métro. En tout cas, il y a quelques directions à donner pour pouvoir y arriver. Puis, systématiquement, quand il posait la question, les gens, puis il demandait en français, évidemment, les gens répondaient en anglais. Puis là, lui continuait à interagir en français jusqu'au moment où les personnes avec qui il discutait disaient, ben là, voulez-vous qu'on parle en anglais ou en français? Puis il disait, en français, je vais apprendre le français.
C'est vraiment drôle que vous parliez de votre reportage que vous aviez fait, parce que moi, je l'ai utilisé en classe, ce reportage-là. Pour avoir une discussion avec ma classe, pour dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, la réponse était systématique. Tout le monde avait eu ce genre d'expérience-là.
Oui, puis après ça, j'accrochais, tu sais, les personnes qui avaient répondu en anglais. Puis je leur demandais pourquoi vous avez répondu en anglais comme ça. Puis Puis ça, ça aussi, ça, je trouve que ça en dit long sur la personnalité des Québécois. C'est qu'on veut accommoder, on veut être gentil. On se dit, on va leur faciliter la tâche, on va s'adapter à eux. La plupart des gens n'avaient pas réfléchi à cette idée-là.
Ouais, les gens, ils réfléchissent peu, puis souvent, ils vont dire, elle comprendra pas ce que je vais dire, je parle trop vite, il comprend pas. Mais non, en fait, ils sont en train d'apprendre, ou peut-être qu'ils comprennent très bien déjà, puis qu'ils ont déjà appris. Avec ça aussi, comme l'interlocuteur que vous aviez, mais comme plusieurs de nos étudiants, nous, qui terminent les parcours, puis qui sont très, très fonctionnels en français. Donc, ils ne demandent que ça, finalement, avoir des occasions d'échanger avec les Québécois. Puis, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent apprendre des nouvelles expressions, ils veulent s'habituer à notre débit, ils veulent s'habituer à des mots qu'ils n'ont pas nécessairement appris en classe. Et ils veulent ça. Ils veulent parler avec nous au travail, ils veulent parler avec nous à l'épicerie. Puis, c'est comme si on fermait un peu une porte. C'est comme si on leur disait, ah non, toi, t'as pas été capable d'apprendre le français ou tu seras pas capable, alors que c'est pas vrai.
Surtout que on entend tellement qu'ils ne font pas d'efforts pour apprendre la langue. Mm-hmm. Mais moi, hier, tout de suite, ce que j'ai pensé quand c'est arrivé, ça, avec ce caissier qui voulait parler en français avec moi, là, discuter en français, c'est qu'on l'a gros comme le bras, le préjugé, comme de quoi que les immigrants font pas d'efforts. C'est bien le cas, hein?
Mm-hmm. Mais oui, on l'a, puis en leur répondant en anglais, c'est exactement ce qu'on leur prouve. Fait que je pense c'est comme si on leur disait, ben oui, on fait pas d'efforts, alors que ce serait facile de dire, voulez-vous que je ralentisse? Est-ce que vous voulez que je répète? Tu sais, comme d'aider les gens puis de leur donner d'autres outils. Mais l'outil de l'anglais, je trouve qu'on pense que c'est une facilité, alors que dans le fond, c'est comme si on manquait de respect aux gens qui ont appris le français puis qui ont fait des efforts pour l'apprendre.
D'ailleurs, il y a des personnes qui me disent aussi, ça m'aide à pratiquer mon anglais, de leur répondre en anglais. Il y a des personnes qui le voient comme ça aussi.
Ben oui, mais tu vois, les Ukrainiens qu'on reçoit depuis un an ou les hispanophones, ils parlent pas anglais. Fait que, tu sais, c'est toujours drôle pour eux de se faire parler en anglais alors qu'ils... Souvent, ne maîtrise pas du tout l'anglais.
Tania, on reçoit des appels dans cette émission, puis il y a Daniel qui nous appelle. On l'écoute ensemble. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour.
Alors, vous, comment vous réagissez sur place, sur le terrain, quand vous avez des interactions avec quelqu'un qui essaie d'apprendre le français?
Moi, écoutez, je ne parle pas l'anglais. J'ai un bac en traduction de l'Université de Montréal. Alors, je comprends l'anglais, mais j'ai décidé de ne pas le parler. Alors, dans mon environnement ici à Pierrefonds, c'est beaucoup des gens qui viennent de l'Inde, du Pakistan, etc. Okay. Et il s'est trouvé que les enfants, au moment où je revenais du travail, m'attendaient à la porte pour dire « Madame, est-ce que tu vas m'aider avec mes devoirs? » Bien sûr. Et là, je voyais des enfants, je trouvais ça atroce, qui m'arrivaient avec des résultats de tests et il y avait 0%. Je vous explique.
OK.
Alors, on demande à Gurpreet, qui rentre à l'école en première année, les pommes, ça pousse dans. Et Gurpreet, il répond un arbre, ce qui est excellent. Mais la réponse, c'est dans un pommier.
Oh!
Zéro. OK. Les pommiers se trouvent dans. Alors, Gurpreet, il répond un jardin, ce qui est tout à fait vraisemblable. Zéro.
OK. Alors, vous voyez que ça facilitait pas trop la tâche là, dans les résultats, mais que dans le pratique, il y avait une compréhension.
Mm-hmm. Ben, c'est parce que je me dis, je sais vraiment que la réponse, c'est dans un verger, c'est un pommier, tout ça. Parce que moi, je suis née ici, j'ai été élevée en français, je ne viens pas de l'Inde où je ne sais pas s'il y a des pommiers ou pas. Vous voyez, et puis là, ben, je trouve que mettre zéro à un enfant, c'est atroce. On aurait dû mettre, je sais pas, moi, 50%.
Daniel, merci de votre appel. J'aimerais que Tania Lompré, vous réagissiez à ce commentaire. C'est quand même intéressant. C'est que on n'encourage pas nécessairement quand on réagit comme ça, un gros zéro, alors qu'on est en apprentissage.
Mais en fait, je suis un peu déçue. J'espère que c'est pas une de mes anciennes étudiantes qui a trouvé cette copie. Mais, tu sais, il faut toujours expliquer aux enseignants que quand on est dans une langue seconde, ben, un enfant va prendre jusqu'à 7 ans pour apprendre le français. Fait que, surtout si Gurpreet, il parle tamoul ou c'est très, une langue qui est très, très loin du français. Donc, c'est ça que la réflexion dans un arbre devrait être correcte ou devrait être à moitié correcte. Ou si c'est un test de lecture et qu'on cherche vraiment un mot, on devrait lui donner un peu de... utiliser son jugement professionnel puis se dire, ben, c'est en fait en apprentissage de la langue. Puis, on va moduler un peu nos attentes. T'sais. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, malheureusement.
Tania Lompré, tu es enseignante en francisation, chargée de cours pour les futurs enseignants en francisation. Si tu acceptes, je te garde avec moi parce qu'après la pause, oui, on va poursuivre la discussion. Il y a d'autres personnes qui nous ont appelées, dont des gens qui sont en apprentissage du français. J'ai bien hâte de les entendre. Alors, je rappelle la question. Est-ce que vous prenez le temps de converser en français avec des immigrants qui sont en apprentissage? Et s'ils ont de la difficulté, est-ce que vous avez une tendance à basculer vers l'anglais et pourquoi? Les numéros de téléphone pour nous joindre à Montréal, 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850, par texto le 98985. Je vous demande, est-ce que vous prenez le temps de converser en français avec des immigrants et s'ils ont de la difficulté, avez-vous tendance à basculer vers l'anglais? Je m'adresse aussi aux gens qui nous écoutent, qui sont issus de l'immigration. Vous, comment ça se passe ou comment ça s'est passé quand vous avez essayé ou tenté d'apprendre le français? Vos relations sur le terrain, là, quand vous alliez faire des achats, est-ce qu'on vous répondait systématiquement en anglais? Est-ce qu'on vous a encouragé à apprendre la langue? Les numéros de téléphone pour m'appeler à Montréal, 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850. Par texto, le 98985. D'ailleurs, je lis quelques textos reçus pendant la pause. Un auditeur nous écrit « Ma femme est d'origine asiatique. Quand nous abordons un vendeur et que je lui parle en français, celui-ci essaie toujours de parler à ma femme en anglais. » Et c'est exactement le cas de figure qu'on exposait avant d'aller à la pause avec Tania Lompré, qui est enseignante en francisation, chargée de cours pour les futurs enseignants en francisation. Elle est toujours avec moi d'ailleurs, Tania. C'est ça, ça va vraiment en ce sens, hein, ce qu'on reçoit comme commentaire. C'est plus répandu qu'on peut le penser, les gens qui basculent vers l'anglais quand on essaie de pratiquer le français.
Bien, je dirais que si je me fie à mes propres étudiants, c'est à peu près 100% des gens. Donc, il y a quelques personnes qui vont faire des efforts, mais très, très peu. Puis souvent, ce sont mes étudiants qui doivent dire ou indiquer aux gens, s'il vous plaît, j'aimerais pratiquer en français ou pouvez-vous me parler en français ou désolé, je ne parle pas anglais, tu sais. Mais c'est souvent eux qui doivent faire le pas, en fait, pour que la personne passe au français.
Puis quand tes étudiants le demandent, est-ce que la demande est respectée par les gens à qui ils s'adressent?
Presque toujours.
Bon, bien ça, c'est positif, là.
Oui, mais le premier réflexe n'est pas nécessairement là.
OK, on a un appel, on l'écoute ensemble. Il s'agit de Maria. Maria vient du Venezuela. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous, comment ça s'est passé, l'apprentissage du français?
Moi, j'ai appris le français au Venezuela. On a pris des cours pendant 2 ans parce que c'est le temps que ça prend le procès pour venir.
OK.
En arrivant ici, j'ai dû faire des cours le soir parce que je parlais anglais déjà, donc je me suis trouvé un travail en anglais parce que mon français, même si j'avais étudié, n'était pas assez bon ou je comprenais pas assez. Puis, ben, à un moment donné, j'ai fait mon cours hygiéniste dentaire. Puis là, quand je suis allée faire mon cours, on m'a dit, mais votre français est pas... pas assez pour faire le cours.
Pas assez avancé.
Là, j'ai dit, oui, c'est ça. Là, j'ai dit, oui, mais si vous ne me donnez pas la chance, comment vous voulez que j'apprenne le français? En ce moment, ça fait un an que je suis là, je travaille en anglais, j'étudie en français, mais si je ne pratique pas, comment je vais apprendre le français? Donc, il faut que vous me donnez la chance de prendre le cours. Puis comme ça, je vais faire les 2 choses en même temps.
J'aimerais... Oui, allez-y.
Oui. J'étais choisie. Donc, la première journée, j'ai une amie qui m'a dit... Elle voyait que j'essayais vraiment fort. Elle m'a dit, est-ce que ça te dérange si je te corrige?
Ah.
Je dis non, pas du tout. Donc, elle m'a pris comme... c'est comme ça.
Elle vous a pris sous son aile. C'est donc bien gentil, ça, de sa part.
Oui, oui, puis... Vraiment, elle était vraiment stressée. Mais ça m'aidait beaucoup, beaucoup.
Maria, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre appel. Il y a beaucoup d'éléments dans votre témoignage qui m'intéressent. Tania Lompré, d'abord, le fait qu'on refuse d'accéder à une formation parce qu'on n'est pas tout à fait assez avancé, bon, il doit y avoir des raisons qui expliquent ça, mais est-ce qu'il y a des solutions de rechange?
Bien, en fait, il y a des solutions de rechange dans l'enseignement du français par objectif spécifique. Par exemple, des cours de français pour les infirmières, des cours de français pour les secrétaires, des cours de français pour les ingénieurs. C'est d'avoir des cours de français plus poussés, en fait, pour les gens, mais ils pourraient être faits en parallèle. Là. Donc, je vois pas pourquoi elle a été refusée, mais bon, je connais pas l'histoire. Mais je veux d'abord la féliciter parce que je sais pas si vous avez entendu, mais elle a dit « pis ben » à un moment donné. Elle a vraiment déjà des expressions québécoises.
Oui, ça fait seulement un an. Ça fait seulement un an qu'elle est là.
Super bon. Mais ça fait un an. Puis, en plus, elle s'auto-corrige. Donc, bravo, Maria. Elle a dit, par exemple, le procès, après le processus, je dis, wow, c'est quelqu'un qui est rendu à s'auto-corriger, puis qui utilise déjà des éléments du lexique. Ça démontre une super belle maîtrise de la langue. Donc, on devrait vraiment faire en sorte que toutes les Marias qui s'installent à Montréal puissent avoir un accès facilité aux formations si elles le désirent, mais aussi qu'on lui donne la chance de faire ses formations puis de parler français.
J'aime tellement notre sujet, là, Tania, parce que je trouve qu'on est enfin dans le positif quand on parle de tout ça. Puis elle a soulevé aussi, Maria, un élément qui m'intéresse beaucoup, là, la correction, justement. Ouais. Tu sais, qu'il y a une personne qui l'accompagne, puis elle lui a demandé, est-ce que tu sais, je peux te corriger, tout ça. Elle dit, ben oui, bien sûr. Quand on interagit avec quelqu'un qui est en apprentissage, est-ce que c'est une bonne idée de les corriger lorsqu'ils font des erreurs de français ou on devrait attendre qu'ils nous demandent? Parce que je pose cette question-là parce que on veut pas les insécuriser, on veut qu'ils se sentent à l'aise de nous parler. Ouais. Puis si on note la moindre erreur, est-ce qu'on peut les rebuter?
Oui, on peut les rebuter. Donc, il faut premièrement leur demander, est-ce que vous êtes à l'aise, comme l'ami a fait, est-ce que vous êtes à l'aise que je vous corrige? Puis si la réponse est oui, ben de corriger seulement les erreurs qui vont nuire au sens, c'est ou nuire à la compréhension de sens. Mais par exemple, il dit un matinée à la place de un matin, mais c'est pas une erreur qui nuit au sens, vous comprenez ce qu'elle a dit. Donc, c'est pas nécessairement nécessaire de la corriger. Il faut plutôt miser sur la fluidité de son discours. Donc, on l'encourage à parler plus rapidement, à prendre confiance à sa maîtrise du français. Puis, si elle le veut, oui, on autocorrige seulement les erreurs qui vont vraiment nuire au sens.
On a un appel de David. On l'écoute ensemble. Bonjour, David.
Bonjour, tout le monde. Vous devez entendre ma voix. Moi, je suis français arrivé au Québec fin 2019. J'aimerais parler du fait que un immigrant, qu'il soit français ou pas, francophone ou pas, doit, en plus d'apprendre le français, doit apprendre le québécois. Non, mais c'est extrêmement important. Ouais. C'est extrêmement important dans le débat parce que moi, je vois, lorsque je savais que j'allais venir au Québec, pendant 6 mois, j'ai écouté la radio parler québécoise lorsque j'arrivais au bureau, à savoir le 98.5. Donc, en plein, c'était 6h30 le matin au bureau. C'était minuit ici, minuit et demi au Québec. Donc, j'entendais des gens qui parlaient toute la nuit d'actualité, de politique, etc. Bref. Donc, lorsque je comprenais pas un mot, j'allais vite sur Google, je tapais, je cherchais la traduction, une expression, etc. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois, vraiment. Et je pensais qu'en arrivant ici, j'allais être vraiment à l'aise. Eh ben, pendant très longtemps, j'ai dû faire répéter beaucoup de mes amis ou des serveurs ou peu importe qui, parce que je ne comprenais pas obligatoirement ce qui était dit.
Avez-vous des exemples d'expressions que vous ne compreniez pas, David?
Non, là, aujourd'hui, je suis vraiment immergé. Moi, j'ai pas été avec les Français, je me suis pas mis sur le plateau, j'ai vraiment été immergé, donc je pourrais pas vous le dire comme ça, mais je voudrais juste dire qu'un immigrant qui n'est pas francophone doit effectivement apprendre le français, mais dans le même temps, il devra apprendre le québécois. Et j'ai discuté de ça avec des Colombiens, un couple de Colombiens aujourd'hui citoyens canadiens. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, nous, on a appris, un peu comme la dame qui a témoigné juste avant, elle a dit, avant d'arriver au Québec, la condition, c'était d'apprendre le français. Donc, on a appris le français avec un Français en Colombie. En arrivant ici, on a passé comme un examen à la frontière pour savoir si on parlait bien français. Bon, j'y connais rien du tout là-dedans parce que moi, j'ai pas eu à suivre ce processus. Mm-hmm. Mais et la personne, cette Colombienne qui parlait plutôt bien français, m'a dit, à un moment, nous, au début, on a dû parler anglais parce qu'on était honteux de pas comprendre les Québécois lorsqu'ils parlaient français.
Mais voyons donc.
Oui, c'était ça parce que en fait, ils avaient l'impression que c'était eux qui ne maîtrisaient pas le français, alors qu'en fait, ils n'avaient pas encore pris en compte qu'ils devaient apprendre le Québécois en plus du français. Mais donc, je sais que ça va faire réagir. Ça va faire réagir beaucoup de puristes rapport à la langue française, mais c'est une réalité.
Mais
c'est
l'aimez-vous? C'est-à-dire que l'aimez-vous, la langue, le québécois, là? Est-ce que vous l'aimez?
Ah, mais moi, je vous dis, moi, je suis uniquement avec des Québécois, je suis absolument pas avec les francophones, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que, même si on dit que c'est un pays francophone, le Québec, il faut prendre en compte que c'est un autre pays, c'est pas la France. Donc, il est normal qu'il y ait des particularités de langage, il est normal qu'il y ait des accents, etc. C'est comme ça dans tous les autres pays francophones autres que la France. Il y a des accents, il y a des particularités de langage. Mais voilà, il faut je pense qu'il ne faut pas jeter obligatoirement la pierre sur les migrants, si je peux m'exprimer ainsi, qui, lui, devra apprendre non pas une langue, mais plutôt deux langues. Et ça, c'est extrêmement compliqué, y compris et surtout à cause de l'âge. Plus on vieillit, plus on a du mal à apprendre une langue.
Tout à fait. David, donc, David, enfin, j'aimerais ça vous entendre. C'est quoi votre expression québécoise préférée maintenant? Rapidement.
Je ne sais pas si j'en ai vraiment...
Ah ben là, voyons!
Non, mais déjà, je ne me risquerai pas à prononcer certains mots québécois, parce que je n'ai pas du tout envie d'être ridicule.
Que c'est ça, David?
Ouais, ben, vous savez, le « que c'est ça », le « ça », on m'a fait la remarque en disant ben tu commences à parler comme les Québécois.
Mais il y a quelque chose de drôle. Et puis après ça, je vais devoir vous laisser aller parce qu'on a d'autres appels.
Non,
mais quand vous, les Français qui arrivent ici, qui effectivement apprennent les différences et subtilités de la langue au Québec, quand ils parlent du ça, là, ils ont l'impression qu'ils entendent ça quand on parle. Mais on dit pas ça. Mais quand on vous entend dire le ça, moi j'entends un Français qui dit ça. C'est merveilleux. J'adore.
En tout cas, pour finir, j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que les Québécois ont été vraiment très patients avec moi et qu'ils ont préféré que je les fasse répéter. On m'a souvent dit, je préfère que tu me fasses répéter plutôt que tu fasses semblant d'avoir compris. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas hésiter à faire répéter les gens, même s'il y en a certains qui pourront être tannés. Il faut les faire répéter pour vraiment comprendre les choses et pas faire semblant d'avoir compris.
David, voilà. je vous remercie beaucoup de votre appel. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Daniel Lompré, en réaction à David, son conseil, c'est un bon conseil de dire faire répéter plutôt que...
Oui, bien, faire répéter plutôt que changer de langue, là, moi, je trouve que c'est génial. En fait, ou ralentir son débit, tu sais, mais d'avoir ces deux trucs-là en tête, là, si on parle à un nouvel arrivant. Puis j'ai une expression qui arrive souvent là chez mes étudiants qui veulent savoir, ça veut dire quoi là, là? Madame, c'est quoi là, là? C'est quoi là, là? Parce que quand ils écoutent des gens dans l'autobus ou quelque chose, ils entendent toujours là, 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 puis ils comprennent pas. Puis même nous, on a de la misère à leur expliquer. Ben, c'est une accentuation de qu'est-ce qu'on dit là, ça n'a pas vraiment sens. Comme,
okay. Ça veut rien dire. J'adore.
Après, ils se mettent à mettre ça n'importe où dans une phrase, c'est pas toujours logique, mais... C'est mignon.
Ah, vraiment, c'est mignon. Tania Lompré, vous êtes enseignante en francisation, chargée de cours pour les futurs enseignants en francisation. Merci beaucoup pour ce beau moment ce matin.
Merci beaucoup à vous, puis bonnes vacances.
C'est gentil, au plaisir. D'ailleurs, je lis un petit texto avant d'aller à la pause. Là, je suis chauffeur d'autobus pour la STM. Il m'arrive parfois de faire la 747. La 747, c'est l'autobus qui relie centre-ville de Montréal à l'aéroport. Donc, on se doute qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours tendance à répondre en anglais. I don't know why. Lol, mais bon, avec l'émission d'aujourd'hui, je pense que je vais commencer à sortir notre beau français. Quel beau message. Merci à vous, chauffeur de la STM. Après la pause, on parle de caisses libre-service. Il y a de plus en plus de commerces qui songent à les remplacer, à remplacer à 100% les caissiers par ces fameuses machines-là. Donc, je vous pose la question. Êtes-vous pour ou contre un commerce ayant uniquement des caisses automatiques? Est-ce que vous les utilisez ou vous les boudez, vous? Les numéros de téléphone pour m'appeler à Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1-866-790-9850. Par texto, le 98985.